Et si les iPads grillaient la vedette au Mac en adoptant la puce M4 avant eux? C'est en tout cas une hypothèse sur laquelle Mark Gurman, le fameux journaliste de Bloomberg le mieux informé du monde sur Apple, serait presque prêt à mettre une pièce. Il estime en effet possible que cette annonce canon soit faite lors de l'événement Apple du 7 mai prochain. On y revient ensemble dans un instant, ce sera pour nous l'événement de la semaine et aussi probablement de la semaine prochaine. Un mois après l'annonce des nouveaux iPads, ce sera déjà l'heure de la WWDC 2024, dont la keynote d'ouverture aura lieu le 10 juin à 19h, heure française. Marquez cette date dans vos agendas pour la suivre en direct avec nous. Une conférence des développeurs qui devrait marquer le tournant d'Apple vers l'intelligence artificielle à tous les étages, et notamment au sein de nouvelles versions des applis intégrées à iOS 18. Mark Gurman, encore lui, prévoit en effet une rénovation de fond en comble de Safari, Notes, Photos, et même l'apparition surprise d'une nouvelle application pour l'iPad. Ce sera notre info de la semaine. Enfin, dans le journal de la semaine, nous parlerons d'une potentielle alerte de sécurité ayant touché les serveurs d'Apple, du futur du Vision Pro et aussi du test d'un MacBook Air M3 15 pouces réalisé par un pro de Windows. Comme chaque semaine, cet épisode, on le doit au soutien de nos donateurs sur Patreon, une aide indispensable pour iWeek, alors merci à vous tous qui nous soutenez déjà, et pour tous les autres, si vous avez envie de nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/iWeek et vous aurez aussi droit au bonus que nous enregistrons juste après l'épisode. iWeek, la semaine Apple numéro 184. Soyez les bienvenus en ce mardi 30 avril 2024. Il est 17h03 à Paris. Et non, je ne suis pas Benjamin Vincent, mais Fabrice Neumann qui remplace cette semaine notre bon capitaine en mission spéciale en un lieu non défini et qu'on embrasse. Il sera de retour parmi nous dès la semaine prochaine. Mais heureusement pour vous, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné aujourd'hui par deux camarades de la team. Salut Elie Habitbol, cofondateur des APR MCS à Nice et tout ça, Aix-en-Provence et Cannes, et toujours président des Apple Premium Reseller en France, mais on ne le dit plus ou presque.
On ne le dit plus. Bonsoir Fabrice, bonsoir Gilles et bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être de retour dans iWeek, la semaine Apple.
Et oui, tu l'as dit, Gilles est aussi parmi nous. Salut Gilles Dounès, ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et co-auteur d'iPod Backstage chez Duno.
Avec l'excellent Marc Geoffroy, que nous connaissons bien. Salutations à lui et salutations à vous Fabrice. Et à toi aussi, Eddie, ainsi qu'à nos chers auditeurs et auditrices, en attendant d'avoir une chroniqueuse parmi nous.
Et oui.
Tu as raison de relancer l'appel. Un jour, on trouvera. Allez, on commence avec l'événement de la semaine. Et si les iPad Pro passaient directement au M4? Depuis qu'Apple a annoncé l'événement Let Loose, qui littéralement veut dire « laissez-vous aller pour le 7 mai prochain », les discussions, prévisions et autres rumeurs vont bon train. On est quasi sûr, voire vraiment sûr, hein, faut bien le dire, qu'il s'agira de l'annonce d'une nouvelle gamme d'iPad et aussi d'un nouveau Pencil. Peut-être avec un retour haptique, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, on en discutera. Mais Mark Gurman, toujours lui donc, fait le lien entre la sortie accélérée de la puce M4 qu'il avait déjà annoncée et les nouveaux iPads qu'on attend donc la semaine prochaine. Et on se retrouve à une drôle d'intersection. Les processeurs M4 devraient embarquer des cœurs encore plus spécialisés dans l'intelligence artificielle, mais les fonctions d'IA d'Apple ne seront pas annoncées avant la WWDC de juin prochain. Alors de quoi Apple va-t-elle bien pouvoir parler le 7 mai si l'arrivée des iPad M4 est confirmée? Allez, Elie, il me semble que toi, tu as quand même un gros doute sur ces M4 dans les iPads.
Oui, en fait, je n'y crois pas du tout. Alors, attention, je respecte Mark Gurman. Et une chose qu'il faut dire dès le départ, c'est que depuis qu'il en a parlé, tous les autres sites, qu'ils soient US ou français, ont repris l'information en annonçant un gros titre, les iPad Pro seront en M4, et quand on lit les articles, d'après une rumeur de Mark Gurman, il semblerait que... Bon, alors, désolé pour Mark que j'adore, moi je n'y crois pas du tout, pour deux raisons. La première, et vous le savez, je vous le dis depuis des années, l'iPhone est ce qui fait vivre Apple. Tous les nouveaux processeurs sortent d'abord dans l'iPhone. Je vous avais dit ça au moment des M3. Je vous l'avais dit et répété malgré les rumeurs. Et effectivement, les processeurs sont sortis d'abord sur l'iPhone. Et ensuite, en fonction de la pénurie, ils sont sortis sur les autres produits. Donc, rien que pour ça, Si Apple sortait un iPad avec un processeur M4 avant les iPhone 16, ils tuent les iPhone 16. Donc, et ils sont complètement hors de leur logique qu'ils appliquent depuis des années, mais ils peuvent nous surprendre. La deuxième chose, pourquoi, et tu l'as dit très bien dit dans l'intro, pourquoi sortir un processeur dont le message marketing est voilà le processeur que nous avons fait pour l'IA, alors que la version d'iPad qui serait livrée avec ne contiendra pas l'IA, puisqu'on la verra en version développeur en juin à la WWDC, et les utilisateurs finaux pourront jouer avec à partir du mois de septembre, donc plutôt fin septembre, en sachant que iPadOS a déjà été retardé plusieurs fois par rapport à iOS. Donc, ce qui voudrait dire qu'on va demander à des gens d'acheter un nouvel iPad pour faire de l'IA qu'ils n'ont pas, avec un OS qu'ils n'ont pas. Moi, je n'y crois pas. Donc.
Bon, du coup, tu fais partie plutôt du camp de John Gruber, un bien connu hein, dans l'univers Apple, qui
Baring.
lui a fait un article pour dire bah non, j'y crois pas non plus. Gilles, c'est quoi ton sentiment?
Je suis assez perplexe dans la mesure où j'entends les arguments d'Eddie et puis ceux de John Gruber, mais il est toujours possible d'injecter des. C'est mon truc de la fonction Créer l'organe hein, de la semaine dernière et qui va pas tarder à arriver. C'est-à-dire que pour qu'une fonction soit là, il faut que l'organe le soit aussi. Rien n'empêche d'avoir un fonctionnement embryonnaire en s'appuyant sur les nouvelles capacités de l'iPad, sachant que. Hypothétique, hein. En matière d'intelligence artificielle, sur une version ultérieure de la version actuelle, une itération ultérieure de la version actuelle de iPadOS, Apple trouvera toujours à s'occuper avec cette nouvelle puissance. Maintenant, il y a autre chose qui me fait dire que ça ne serait pas impossible et même plutôt probable, c'est que je vois mal Mark Gurman se griller en annonçant éventuellement une version, un nouveau, le M4 pour le nouvel iPad Pro, sachant que si jamais ce n'est que le M3 qui est dans la semaine prochaine, dans la nouvelle version, les gens vont faire il va y avoir un truc de déception et il aurait tendance à se griller vis-à-vis de ces sources privilégiées chez Apple. Donc,
Cela dit,
je le vois.
Élie, je te donne la parole tout de suite. Quand on lit la newsletter de Gurman, ça fait partie des aspects sur lesquels il est le moins sûr. Hein. Je disais, il met une pièce peut-être. Là, pour le coup, il dit pas, on m'a dit. Il a des tournures de phrases très spécifiques hein, pour dire j'ai entendu que, on m'a dit que, etc. Et donc là, pour ce qui est
Exactement.
du M4 dans l'iPad, on est plutôt dans c'est peut-être possible.
C'est tellement touchy que je le vois mal s'avancer sans un minimum de biscuits. Maintenant, je peux me tromper. Bon, honnêtement, ma religion n'est pas faite ni d'un côté ni de l'autre.
Élie.
Bah en fait, Marc a déjà changé d'avis par le passé, hein, sans se contredire. Là, il a entendu dire, comme tu as dit, j'ai lu exactement la même chose, et il va entendre d'autres choses, et il verra d'ailleurs lors de la keynote peut-être d'autres choses, ou peut-être pas. Donc on ne sait pas. Mais en plus, ça serait tellement bizarre comme message marketing et comme satisfaction client de sortir un M4 6 mois après la sortie des M3. Ce n'est pas si vieux que ça, les M3. Hein. Donc, des utilisateurs qui ont acheté des produits à base de processeurs M3. Les derniers, je vous rappelle que on les a annoncés comme étant le processeur qu'il vous faut pour faire de l'IA, hein, lors des M3. Et
J'allais y
donc, on va leur
venir,
dire, on vous a menti. En fait, c'est le M4 qu'il vous faut pour
oui.
l'IA. Et donc là, non, il ne serait pas cohérent. Ça serait énorme. Mais un processeur qui a 6 mois de vie, moi, j'y crois pas. Bon, après, je ne sais pas ce que nous dirait notre ami Frédéric Crassat. Hein, donc, j'ai essayé de le joindre pour qu'il nous livre. Mais je ne suis pas arrivé à le joindre. Mais certainement, il se manifestera en ligne dans les jours prochains, on verra.
Ouais, bah oui.
Je voudrais ajouter un truc.
Oui.
C'est que apparemment, ce serait un M3 si jamais il devait être marketé M4 pour rejoindre ce que dit Ellie, un M3 avec des fonctions d'intelligence artificielle supplémentaires, du machine learning, en veux-tu, en voilà. Donc, comment, toute la question est comment est-ce qu'il va être marketé? Est-ce que ça va être un M3 Pro de la mort qui tue ou Max ou qu'est-ce que je ne sais pas ce que le service marketing Apple peut inventer comme superlatif, mais de toute façon, si ça devait être un M4, il ne serait pas une rupture radicale par rapport à ce qu'on a connu depuis septembre, en fait, avec la sortie de l'iPhone.
Alors, en fait, en parlant de ça, je voulais vous soumettre une pensée que j'ai eue en réfléchissant à ça. Ça m'a fait penser à l'iPad Air 2. Est-ce que vous vous souvenez de l'iPad Air 2? Quand il est sorti, il était équipé de l'A8X. Et quand il est sorti, l'iPad Air 2, il y a eu une sorte de surprise parce qu'il était deux ou trois fois plus rapide que le précédent. Il était surpuissant. Et tout le monde, en gros, au moment de sa sortie, disait, mais à quoi ça sert cette puissance, vu que iPadOS 10, qui s'appelait pas encore iPadOS, je crois, à l'époque, bah, on ne fait pas, quand même pas grand-chose avec. Sauf que il y a eu iPadOS ou iOS 11, juste après, dans lequel il y avait Split View et tout un tas de trucs multitâches. Et là, on a fait, ah, mais c'est à ça que ça sert, cette puissance-là. Et du coup, moi, je me demandais s'il n'y aurait pas... ni M3 ni M4, mais genre M2X, M3X, un truc, et ce serait le retour d'un processeur spécial iPad, et que Gurman il dit M4 parce qu'il a peut-être vu passer, par exemple, imaginons, alors attention, hein, je fais du jus de crâne, hein, comme on dit, il a vu passer des tests de vitesse, de puissance, etc., et a priori ce serait au-dessus du M3. Il n'y a pas marqué M3 Pro parce que je ne suis pas sûr que ça rentre dans un iPad parce que c'est plus gros, ça chauffe un peu plus. Mais un truc un peu spécial et que du coup, on serait en face, en fait, au moment de l'arrivée de ces fameux iPad Pro, des iPads super rapides dont on ne sait pas à quoi ça sert avec iPadOS 17, mais avec lesquels on ferait tout ce « Oh, c'est parce que iPadOS 18 » quand arrivera la WWDC avec tout un tas de fonctions IA dont ils ne peuvent pas parler au mois de mai. Mais le problème qu'ils ont, c'est que comme les iPads, ils ne les mettent pas à jour ni tous les 6 mois, ni tous les ans, mais plutôt tous les 18 mois, il faut qu'ils les sortent maintenant. Et donc, il y a une sorte d'effet ciseau où pendant un mois et quelques, on ne saura pas trop à quoi ça sert toute cette puissance sur les iPads. Vous en pensez quoi de ma théorie?
Bah, ça se tient au niveau d'un M3X, ça se tient pas d'un M4, encore une fois. Et surtout, si jamais c'était vrai, comme j'ai dit au tout début, ça voudrait dire qu'Apple se tire une balle dans le pied par rapport à la sortie de l'iPhone 16. Hein. Parce que l'iPhone 16, déjà, il n'est pas super, super nouveau, à part un écran légèrement plus grand, etc. Le design ne change pas, il n'y a pas, etc. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans l'iPhone 16, c'est le fait qu'il va utiliser un processeur nouveau, même si ce n'est pas du 2 nanomètres, et qui va permettre de faire de l'IA avec un OS qui a été conçu pour faire de l'IA, où on a rajouté de l'IA à toutes les couches de l'OS. Donc, encore une fois, sortir un M4 aujourd'hui sur un iPad, c'est tuer la sortie de l'iPhone, en partie. Donc, je ne vois pas Apple faire ça.
Bon, bah, donc on va voir ça en fait dès la semaine prochaine. On est tous impatients, mais la date arrive. On rappelle que c'est donc le 7 mai prochain. Alors, je crois que c'est 16 h heure de Paris, si je me souviens bien.
Exactement.
Donc on va suivre ça de près et je pense qu'on aura de quoi discuter pour le numéro d'iWeek 185. Allez, on passe à l'info de la semaine. On continue sur l'IA. On s'attend à ce qu'il y ait des rénovations profondes pour les applications intégrées à iOS 18 qui sera donc annoncée à la WWDC. On parle de rénovation pour notes, pour mail, pour photos, pour Safari, le tout donc évidemment saupoudré de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle dont on vient de le dire, on ne sait encore rien, mais on parle déjà beaucoup. Et puis aussi, et pour moi, je trouve que c'est la rumeur la plus importante parce que j'avais déjà fait ça quand l'application Météo était arrivée sur l'iPad. On parle de l'arrivée enfin d'une application calculette sur l'iPad intégrée en standard par défaut.
Yes.
Alors voilà, Élie, tu lèves les bras au ciel en disant Yes, youpi, enfin!
Enfin.
J'ai entendu un podcasteur américain qui m'a bien fait rire en disant bah, enfin, ça ne leur aura pris que 1 million d'années. bon, alors voilà, l'arrivée d'une calculette, c'est pas ce qui va changer le monde, à part peut-être pour les éditeurs d'applications de calculette sur l'App Store pour l'iPad, justement, parce que y avait un trou à combler. En revanche, voilà, donc on sait que Apple va parler d'IA à tous les étages pour iOS 18, que ce sera probablement intégré au système et donc aussi aux applications. Est-ce que c'est ça que ça veut dire pour vous, justement, donc une rénovation en profondeur des applications, c'est de l'IA dedans, c'est quoi?
Ah ben c'est un
Il y
complément
aura.
de l'OS parce que effectivement, par rapport à tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Moi, je dis c'est l'OS d'abord parce que c'est le fondement et la base de tout. Mais ce qu'on utilise tous les jours, bon, c'est l'OS en tâche de fond, bien sûr, mais ce sont les applis. Alors, dans ces applis, on ne sait pas ce que va imaginer Apple, mais il y a une série d'applications dont on ne parle pas dans cette liste et qui est un peu là où on attend Apple, à savoir c'est la suite contenant Pages, Numbers et Keynote, parce que ce sont les applications bureautiques où Microsoft a déjà insisté lourdement sur le fait de rajouter de l'IA, et donc Apple sera attendu évidemment là-dessus. Mais sinon, évidemment, le mail, on peut attendre une petite dose d'IA, on l'a déjà vu dans Google Mail, donc c'est l'assistant qui permet de composer un mail pour un type de destinataire. Dans Notes, je ne sais pas ce qu'Apple pourrait ajouter, ils peuvent nous surprendre. Dans Photo, évidemment, on peut avoir de l'IA qui peut servir à faire du détourage, qui peut servir à faire de la génération de contenu, comme c'est très bien faire Adobe. Est-ce qu'Apple ira aussi loin que ça, puisque Adobe le fait dans Photoshop. Et en ce qui concerne Safari, évidemment, on pense un peu à la recherche, mais ça vient de l'OS parce qu'il y aura un moteur de recherche dans cet OS qui sera probablement basé sur de l'IA, entre autres, mais qui pourrait d'ailleurs être double parce que les dernières rumeurs disent qu'Apple, discutant avec OpenAI et Google, pourrait inclure les deux systèmes dans iOS 18 et laisser l'utilisateur choisir l'un et l'autre ou voir les deux en fonction des requêtes qu'ils font.
Ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Parce que je vois mal Apple faire ce genre de complexité au sein de l'OS. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un endroit où il y aura de l'OpenAI et un autre endroit où ce sera Gemini et un autre endroit où ce sera Perplexity ou tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas l'utilisateur qui va choisir. Ça, j'y crois pas en fait.
Dans le moteur de recherche, tu peux choisir, en fait, hein,
Non, j'entends
après,
bien,
dans le
mais
reste.
de ce que je sais d'Apple, ce n'est pas le genre de. Tu sais, de réglages fins qu'on laisse à l'utilisateur. C'est Apple qui décide. C'est comme quand il y avait des MacBook Pro avec deux cartes graphiques dedans, la puce graphique intégrée à Intel et puis la Radeon, machin chose. Et c'est le système qui choisissait en fonction de ce qu'on faisait, quoi.
Mais tu le ferais
C'est plutôt comme
choisir
ça que je vois.
ensuite.
Pardon, Gilles.
Alors, pour moi, Elie l'a très bien dit, hein, pour moi, il y aura des API spécifiques comme on a pu avoir sur, depuis le début, hein, sur l'affichage, sur tout un tas de trucs. Là, il y aura des API sur de l'intelligence artificielle maison sur lesquels ils travaillent et qu'ils ont commencé à partager avec les différentes communautés, comme ils ont pu le faire il y a une dizaine d'années pour l'affichage, une quinzaine d'années maintenant, pour l'affichage avec OpenGL. Et donc, il va y avoir des API spécifiques pour à la disposition des développeurs. Et Apple se sera servi en premier pour ces applications spécifiques. Et je pense qu'Elie a tout à fait raison. Il va y avoir ensuite en démonstration, histoire de bien enfoncer le clou. Apple va montrer ce que Pages, ce que Numbers ou même Keynote, dont on parle peu finalement, mais qui a une communauté d'utilisateurs qui est très attachée, ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle Apple en local, encore une fois, et en réservant ce choix de telle ou telle application, telle ou telle logiciel ou système d'intelligence artificielle avec des mots complexes, à la discrétion de l'utilisateur dans Safari ou dans un autre navigateur, exactement comme on avait la possibilité de le faire depuis, là encore, une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'années dans Safari.
Je te donne la parole tout de suite, Élie. Juste, je veux rebondir sur une phrase que tu as dite, Gilles, sur le traitement intelligence artificielle en local. Je me demande si ça, ce ne serait pas justement une des fonctions qui serait réservée au M4 plus tard. C'est-à-dire que on aurait, ou en tout cas plus de traitement en local grâce à l'augmentation du nombre de cœurs spécifiques IA qui
Bien sûr.
seraient intégrés au M4. Ça n'empêche pas l'IA de fonctionner sur les autres processeurs, mais peut-être que ce serait une des limitations. J'en parlais avec un de nos auditeurs, salut Julien, aujourd'hui même, sur justement le retard d'Apple sur l'IA. Et est-ce que il était un peu inquiet en se disant, est-ce que l'IA, les fonctions d'IA qu'Apple va annoncer, ça va marcher sur mon MacBook Pro M2? Et je pense que oui, hein,
Oui.
mais peut-être que justement, ce serait une des façons de différencier, c'est qu'il y aurait plus d'IA en local avec M4 et suivant qu'avec les M3 et précédents. Ça, c'était pour
Oui.
rebondir sur l'IA en local. Élie, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, parce que quand j'ai dit tout à l'heure que ce que j'attendais le plus, c'était iOS et évidemment les autres OS, iPadOS, macOS, etc. C'était l'IA là-dedans. Pour personnaliser ça, c'est le remplaçant de Siri. C'est-à-dire que ce que devrait faire Apple, en tout cas mon rêve à moi, si Apple le faisait au niveau de l'IA dans un OS, c'est d'avoir un vrai assistant personnel comme celui qu'on avait découvert dans les années 80 quand Apple avait fait ce merveilleux film d'animation avec George Lucas. C'est-à-dire qu'on puisse parler à son téléphone ou à son ordinateur pour faire des choses concrètes. Pas pour allumer une lumière ou pour lui demander la météo, mais pour faire des choses liées à l'OS, lance un truc et qu'il soit suffisamment doué pour répondre des choses intelligentes si on lui pose une question. Et comme c'est en local, faire ce que Microsoft a eu l'intelligence de faire, c'est-à-dire former un des modèles sur l'OS et qu'on puisse poser n'importe quelle question. Comment est-ce que je rajoute une imprimante? Comment est-ce que je fais pour changer mon entrée sonore? Parce que nous, on sait le faire, la plupart du temps,
Alors,
pas toujours,
je t'arrête tout de
mais...
suite. Je t'arrête tout de suite parce que j'ai encore eu un problème d'installation d'une imprimante avec un client hier, et donc ça, c'est impossible. On est en 2024 et installer une imprimante, c'est toujours impossible.
Voilà, mais c'est grâce à l'IA, peut-être ça serait plus facile, on va dire. Voilà, donc... Un modèle, entre autres, qui connaissent évidemment par cœur toutes les subtilités de l'OS où il est installé, puisqu'il est installé en local. Et ça serait génial. Mais vraiment, quelque chose qui fasse totalement oublier Siri, que les gens se disent, ah ouais, ça, l'assistant personnel d'Apple, ne parlons plus d'Alexa ni de OK Google. Voilà, Apple, ils ont mis effectivement 1 million d'années, mais ça y est, on y est. On peut
Ouais,
rêver, hein.
bah on peut rêver parce que, cela dit, Siri, ça part vraiment de loin hein, quand même. On est bien d'accord. Ouais, il y a des trucs auxquels. Moi, ce que j'attends, en fait, c'est que, comme souvent, que Apple nous raconte une histoire à la WWDC. C'est qu'on ne parle pas de moteur machin, de LLM bidule, etc. Ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. En revanche, ils mettent en valeur, en exergue de nouvelles fonctions qui soient des fonctions d'IA, mais je suis même pas sûr qu'ils prononcent le mot IA à chacune des fonctions. Ils vont dire, attention, iOS 18, c'est iOS à la sauce IA, et ensuite ils vont oublier le mot IA, ou AI en anglais, pour dire, bah, on fait des résumés de documents PDF quand vous les ouvrez dans Preview, dans Aperçu. Les photos, ça fait papa-maman. Et alors pour notes, j'ai peur, en fait, moi, pour notre ami Denis Delbecq, qui a eu la gentillesse de participer à iWeek 181, qui a lancé son application Chuchotie, qui se base sur Whisper pour faire de la reconnaissance de la transformation de voix en texte. Je crains l'arrivée de cette fonction dans Notes, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait un enregistrement vocal dans Notes, donc on puisse faire justement des interviews avec, et qu'il y ait de la retranscription vocale vers texte, et qu'on ait le texte dans Notes. Parce que du coup, il y aurait un modèle de transcription justement qui marche très bien en local. Ça, on sait le faire en local déjà très bien. Et voilà. Denis, si tu nous entends, je ne sais pas ce que j'espère, mais j'espère que ça ira bien pour toi. Voilà à quoi je pensais. Gilles, tu voulais ajouter quelque chose?
Les cœurs logiques de Neuralink sont là depuis des mois et depuis des années et permettent de faire du flouté d'arrière-plan, du nettoyage de visage ou d'avant-plan, comme c'est le cas, je crois, depuis l'année dernière. C'est une injonction paradoxale où il faut de l'innovation, il faut de l'innovation, mais il ne faut pas d'obsolescence programmée et il ne faut pas innover trop vite ni de façon trop radicale, sinon ça incite à changer ses téléphones et son matériel.
En tout cas, Gilles, tu as raison, je pense, de rappeler que même si Apple n'appelait pas ça intelligence artificielle, ils font du machine learning depuis longtemps avec des cœurs spécifiques. Enfin voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ce qu'on ne sait pas vraiment encore sur ce qui va se passer sur la WWDC 2024 spéciale IA chez Apple, mais ce qu'on espère aussi y voir. Et on y reviendra, évidemment. Un message important pour nous, si vous appréciez notre travail, soutenez-nous et rejoignez la communauté iWeek sur Patreon. Vous nous aidez ainsi à développer cette aventure. La page iWeek sur patreon.com/iWeek vous attend. Un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. On a besoin que vous soyez de plus en plus nombreux pour toujours vous proposer plus de contenu. Et on vous promet qu'on sourira encore plus si vous êtes plus nombreux à nous rejoindre. On passe au journal de la semaine. Allez, on va faire un petit tour des choses qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Élie, je vais me tourner plus vers toi parce qu'il y a eu une petite recrudescence d'appareils Apple, tout modèle confondu, qui se sont retrouvés déconnectés de leur compte Apple. Pas mal de gens ont raconté leurs histoires en disant que un matin, ils se réveillent. Et il y a un message sur leur iPhone ou leur iPad ou leur Mac disant il faut que vous changiez le mot de passe de votre compte Apple. Et puis ils le font et hop, un message disant vous avez été votre compte est bloqué. Et ils étaient un petit peu embêtés. Et puis il semblerait que ça a touché pas mal de monde et Apple n'a, à ma connaissance, pas communiqué sur le sujet. Et donc on se demande est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est un piratage? Est-ce que c'est Apple qui a déclencher une vague de demandes de renouvellement de mots de passe parce qu'ils étaient obligés à cause d'une alerte de sécurité, quelque chose. Bref, Élie, est-ce que parmi les clients qui sont passés dans tes magasins, tu as eu des exemples?
Oui, j'en ai eu au moins un que j'ai vécu de très près et qui correspond à 100% à ce problème. Alors, figure-toi que nous avons vendu à un très bon client, qui en même temps est un ami, un merveilleux MacBook Pro 16 pouces Max en configuration, alors fabuleuse, hein. Et donc, comme on se connaît, il m'a dit, on va le mettre en route ensemble. Donc, il est venu, on l'a mis en route. Il est reparti très content. Il a utilisé en fait comme compte ce qu'Apple demande maintenant de plus en plus de faire. Moi, je suis contre, mais j'essaie de ne pas trop m'opposer à ce que veulent faire les clients. C'est-à-dire, Apple lui propose au démarrage d'utiliser son Apple ID, puisqu'il en a une, comme compte de sa session. Et donc, il se dit, bah, je vais faire comme ça parce que c'est plus simple. C'est ce que j'ai sur mon iPhone et mon iPad, etc. Donc, faisons-le comme ça. Jusque-là, ça ne devait pas poser de problème. Donc, on configure la machine, il part chez lui tout content avec sa machine toute neuve. Donc, le lendemain matin, effectivement, il essaye d'utiliser la machine et il tape son mot de passe. Ça ne marche pas. Et il a un message, votre compte est bloqué. Il se dit, c'est pas possible, c'est le même mot de passe que j'ai sur tous mes appareils. Il retape le mot de passe, votre compte est bloqué pendant 8 heures.
Et
Et là,
angoisse.
il nous amène l'ordinateur, il nous l'amène, hein. Et là, je réunis tous mes techniciens en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que normalement, un compte de session Apple est local. Il ne doit pas être bloqué pendant 8 heures. Ça n'a jamais arrivé avant. Et on a tout essayé. On est rentré en recovery. on a essayé de le mettre en DFU parce que non seulement il n'acceptait pas quand on fait, j'ai oublié les mots de passe, un reset password au terminal hein, pour essayer de changer ça, il ne nous laissait pas faire et il a dit, bah, écoute, je viens de l'acheter, efface-le, de toute façon, j'ai rien mis dedans, à part les synchros iCloud de photos et de messages, etc. Eh bien, on ne pouvait pas l'effacer. Donc, on ne pouvait rien faire, ni l'effacer, ni changer le mot de passe. Et donc, il a dû nous le laisser. On a attendu tout le week-end. Lundi matin, on arrive au magasin à l'ouverture, un peu quand même inquiet vu le prix de la machine. Et bon. On tape le mot de passe et la machine démarre. Voilà. Mais vraiment, pendant tout le week-end, j'ai regardé sur le net, etc. Et je suis tombé effectivement sur un certain nombre d'articles qui parlaient d'un blocage de compte Apple basé sur l'Apple ID. Si c'était un compte local n'ayant rien à voir avec un Apple ID, probablement ça ne se serait pas passé, bien sûr. Alors, est-ce que même en local, quand on tape ce compte, il fait une recherche sur un des serveurs d'Apple pour dire est-ce que c'est bien ce mot de passe-là, même si c'est pour un compte local? Mais en tout cas, cette réaction de bloquer l'ordinateur, je pense qu'il a tapé un certain nombre de fois. Il a dû s'entêter avant qu'il lui sorte un blocage de 8 heures, hein, soyons honnêtes. Mais quand même, et le 8 heures, comme il nous l'a amené vendredi après-midi, pas très loin de la fermeture, bah, on s'est dit, bah, soit on passe la nuit là, soit on attend lundi que ça passe. À l'époque, à ce moment-là, on ne savait pas que c'était un phénomène étendu et que d'autres personnes partout dans le monde l'avaient eu, et même sur... différents appareils. Alors évidemment, on a essayé de joindre Apple parce que, en plus, il est sous Apple CarPlus. Hein, donc, tu vois, vraiment le truc blindé de chez blindé. Et la seule chose que nous a dit Apple, ils nous ont pas dit on est au courant, etc. Ils nous ont dit un truc qu'on n'a pas très bien compris. Ils ont dit bah, écoutez, il faut vous déconnecter de tous vos appareils. Il faut que vous enleviez l'Apple ID de tous vos appareils et que vous la remettiez. Et je me suis dit, mais en quoi est-ce que ça va débloquer celui-là qui est déjà bloqué? Parce qu'il déconnecte son iPhone et son iPad et qu'il le remette son mot de passe, à la limite, je lui ai dit, ne touche à rien avant lundi, parce que peut-être que le phénomène étant étendu, il aurait bloqué son iPhone et il aurait bloqué son iPad. Et alors là, ça aurait été un drame, du coup. Parce que c'est un professionnel de santé et donc vivre sans ses appareils, même pendant le week-end, c'est un tout petit peu compliqué. Donc voilà, mais vraiment, et j'ai été perplexe et j'ai tout essayé, tout ce que je sais faire depuis tellement d'années, et on n'a rien pu faire dans cette machine avant lundi matin, où ça, en quelques secondes ou quelques minutes, hein, donc on a réussi à. Et la machine était comme si rien ne s'était passé. Hein, c'est vraiment.
C'est très bizarre hein, cette affaire. Hein. Du coup, grâce à toi, j'entends la première communication d'Apple à ce sujet parce que je n'ai rien vu nulle part. A priori, il n'y a même rien eu sur, tu sais, la page de statut des services là qu'on peut aller voir quand il y a un problème. Des fois, c'est en orange parce qu'il y a une coupure de juste iCloud Drive pendant 3 quarts d'heure, des machins comme ça. Et là, il n'y a rien. Donc c'est bon, c'est vraiment bizarre. J'espère que Apple va faire une communication sur le sujet à un moment pour dire voilà ce qui s'est passé, parce que voilà, il y en a plusieurs là qui se demandent si ce serait pas donc un problème de sécurité, une sorte potentiellement d'attaque sur des services en ligne d'Apple et qui aurait déclenché un blocage, une demande de changement de mot de passe, etc.
Oui, ben je vais te compléter ça avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est curieux parce que ça arrive un peu au même moment. Figure-toi, bon, moi j'ai Apple Pay depuis qu'il est sorti et j'utilise ça avec connecté à ma carte bancaire Société Générale j'utilise tout le temps. Bon, il y a quelque temps, je reçois un message, c'est assez bizarre, en disant une tentative de fraude, faites opposition à votre carte. Évidemment, de la Société Générale sur la messagerie interne, etc. Donc je fais opposition à ma carte bleue. Ils m'en envoient une autre et ils me disent service télématique Irlande. Dis, bon, bizarre.
Voilà.
OK. Donc, j'attends ma carte bleue, plus d'une semaine. Pas les 48 heures habituelles, mais plus d'une semaine. Je reçois une toute nouvelle carte bleue, évidemment, nouveau code de sécurité, etc. Quelques jours après, reblocage. Problème de sécurité, faites opposition à votre carte. Service télématique Irlande essaye de débiter 6 000 euros de votre compte.
Oui,
Et
il y a
donc,
eu.
du coup, je réfléchis très profondément à ça et je me dis, mais surtout depuis la première opposition, J'ai fait extrêmement attention à l'utilisation de ma carte. Et donc, je l'utilise sur mon renouvellement de mon compte Apple, de mon Apple One. Donc, ils sont basés en Irlande. Sur mon compte Spotify, ils sont basés en Irlande aussi. Et éventuellement sur des achats Amazon. Voilà les trois services, parce que ce sont des très grosses sociétés très connues, toutes les trois, auxquelles je confie la possibilité d'utiliser ma carte bleue mensuelle pour des abonnements. Ce sont les seuls. Et je me dis, est-ce que c'est une fuite de sécurité des données qui font qu'ils ont récupéré deux fois en quelques semaines mon numéro de carte et le code? Ou est-ce que c'est un employé d'une de ces sociétés qui a pu avoir un employé indélicat, certes, qui a pu avoir accès, parce que je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement, surtout que vraiment, depuis le premier blocage, je n'utilise plus du tout ma carte bleue pour faire des achats Internet. J'utilise une carte virtuelle qu'on génère à chaque fois et qui ne marche qu'une fois. Mais voilà, donc ça n'a rien à voir avec un blocage de compte, mais c'est une hypothèse de y a-t-il eu un problème de sécurité ou un vol de données sur le net? Je ne sais pas.
Gilles, tu voulais réagir à ça?
Oui, je crois avoir vu passer justement un problème de sécurité. C'était via Apple Pay que les tentatives de fraude étaient effectuées. Il n'y en a pas eu des masses, mais il y en a eu quelques-unes. C'est peut-être ce qui est arrivé à Ellie. En principe, les données bancaires sont cryptées, sont encodées de façon assez complexe. On est à 256, il me semble, 8. Donc, il n'y a pas de raison que la carte d'Ellie ait été compromise. Le système de génération de cartes virtuelles a peut-être été compromis, un peu comme moi j'utilisais il y a 20 ans la e-carte bleue qui a fini par être qui a fonctionné sur le même principe, et le service a fini par être annulé parce que la sécurité n'était plus assurée et il y avait trop de problèmes et de remboursements induits. Donc, est-ce que c'est également quelque chose de cet ordre-là qui est arrivé sur ces fameux tokens? J'en sais rien, mais c'est une hypothèse.
Bon, rapidement, Ellie, qu'on passe à autre
Oui.
chose.
Bien sûr, ben un troisième exemple pour rebondir sur ce que dit Gilles sur les problèmes de sécurité Apple Pay. Apple n'a pas communiqué dessus, mais on a eu la semaine dernière dans le magasin de Cannes vraiment ce problème-là et on a porté plainte. Donc je ne peux pas donner trop de détails parce qu'il y a une plainte qui est en cours, mais un client, grosso modo, arrive au magasin, achète deux iPhones en payant par Apple Pay. Ça passe directement, le ticket sort, etc. Donc il repart avec ses deux iPhones. Il revient le lendemain et il dit bonjour, voyez, je voudrais acheter encore un iPhone, toujours avec Apple Pay. Et là, du coup, il dit mais quand même, aux trois. Et il revient le lendemain en voulant acheter deux. Et donc là, chez nous, aux achats, il y a quelqu'un qui dit non, non, c'est pas normal. Il y a un problème, demandez-lui sa carte d'identité. Le mec donne sa carte d'identité. Et il veut encore acheter deux iPhones. La carte d'identité, c'est quelqu'un qui vient de la banlieue parisienne, etc., pas un Cannois, on va dire, d'origine. Donc, pas de méfiance a priori, parce qu'il paye avec Apple Pay et que ça passe à chaque fois. Mais on lui dit, bah, écoutez, non, là, on n'a pas les produits, repassez. Et le mec n'est jamais repassé, mais on avait sa carte d'identité, on avait les tickets de carte, et on a porté plainte parce que un des clients, parce que ces cartes Apple Pay étaient au nom de comptes existants. Donc, on a un, c'est pas un de nos clients, mais un pauvre monsieur qui nous appelle en disant, ma banque me dit que j'ai acheté quelque chose chez vous, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais je n'ai rien acheté chez vous.
Ah, mais du coup, le problème, c'est pas vraiment lié à Apple Pay, c'est que
Quelqu'un a dû
quelqu'un a ajouté, a
accéder
scanné la carte
la carte du client et l'a mise sur son téléphone. Mais quand
et
tu fais
là,
ça, normalement, tu reçois un SMS ou un code de la banque sur ton application. Pour que la
ouais.
carte soit enregistrée sur un iPhone, tu as un message de la banque. Donc, ça veut dire
Donc,
qu'il avait accès quelque part
ouais.
au téléphone ou à la messagerie de ce client. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui a été négligent, peut-être, je ne sais pas. Mais pour dire que oui, moi, je pensais exactement la même chose.
Bon, bah, quand tu pourras, tu nous raconteras la fin, j'espère, heureuse de cette histoire.
Oui, on verra, j'espère aussi.
Allez, on passe au Vision Pro. Bon, a priori, il n'y aura pas de deuxième version du Vision Pro. Là, je parle du matériel avant la fin de 2026. Et alors, je ne sais pas vous, mais on commence à voir de ci, de là, tout un tas de gens qui commencent à refaire le message qu'on connaissait il y a quelques années de Ah, Apple est condamné, Apple va se planter, ça y est, c'est fini pour Apple, et donc c'est fini pour le Vision Pro, on voit qu'ils n'en vendent pas suffisamment, etc., etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Gilles, tu as un avis sur le sujet, puis je vous raconterai un petit truc après.
Ça me fatigue, c'est la même chose.
Bon, ben, je crois qu'on ne fera pas mieux, en fait.
Tu
Non,
as
c'est
été
toujours les mêmes
concis.
choses, sachant que c'est uniquement sur le marché américain que on l'a dit et répété. Alors, c'est peut-être des gens qui n'écoutent pas Aimé, qu'on va les encourager à le faire. On leur dit que, sur tous les temps, que c'est destiné aux professionnels et que donc le grand public fait mémuse avec les applications qui sont plus ou moins disponible, mais c'est destiné aux professionnels pour faire des trucs sérieux et gagner de l'argent avec et pas claquer 3 500 boules comme ça, simplement pour faire le kéké dans la rue. Donc voilà.
Bon, alors ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai posé la question à notre camarade Florent Morin, développeur Vision OS devant l'éternel, hein, parce que depuis plusieurs mois maintenant, il se consacre quasi uniquement à Vision OS. Et donc je lui ai demandé, bah, alors qu'est-ce que tu penses toi du fait des gens qui disent que le Vision Pro, c'est déjà fini? Alors en gros, il s'est esclaffé. Parce que, pour dire à peu près la même chose, effectivement, c'est plutôt pour les professionnels. Je pense qu'on est tous d'accord aussi que finalement, le Vision Pro aujourd'hui, c'est comme un kit de développement en vente libre, parce que c'est un truc vraiment en devenir. Donc voilà, n'interromps pas tout de suite le Vision Pro. Je pense qu'on sait aussi qu'en plus de l'IA, c'est Vision OS 2.0 qui devrait être annoncé à la WWDC de juin, avec sûrement tout un tas de fonctions supplémentaires. Est-ce que c'est là que sera annoncée justement la commercialisation dans d'autres pays qu'aux États-Unis? Ou certains disent que ce serait pendant l'événement du 7 mai, là où on parle d'iPad. Ça, j'y crois pas non plus. Enfin voilà, donc n'interromps pas tout de suite le Vision Pro, ce serait quand même très étonnant. Allez, on passe maintenant. Alors, il y a un test d'un MacBook Air M3 15 pouces qui m'a fait sourire. Parce que c'est un long test réalisé par le journaliste Paul Serrott, ça s'écrit Hurrott, qui depuis 30 ans maintenant chronique les aléas de Windows et autres réussites de Windows aussi. Et donc il est plutôt, lui, en gros, il préfère Windows, mais il a acheté un MacBook Air M3 15 pouces et il l'a utilisé pendant un mois et puis il fait son retour. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il dit à la fin quand même qu'il préfère Windows. Ça, en partie, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude, et c'est ce qu'il dit aussi. Hein. macOS, il a des problèmes avec de gestion des fenêtres, par exemple. Il y a un certain nombre de trucs sur lesquels je suis d'accord avec lui. Je trouve que la gestion des fenêtres dans Windows, ou 11 notamment, est meilleure que ce que propose macOS. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il ne tarit pas d'éloges sur cette machine, en disant, mais c'est génial, c'est une machine qui a une sorte d'autonomie électrique infinie, l'écran est formidable, ça fait pas de bruit, ça chauffe pas, on n'a pas ça chez Windows, quoi.
Et
Voilà.
oui. Et en plus, il a raté le message clé, car rappelle-toi que le 15 pouces M3, c'est la machine idéale conçue pour l'IA.
Ouais, alors sur ce point de vue-là, comme pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui fonctionne en local, il y a un autre journaliste de The Verge qui s'appelle David Pierce qui à un moment il dit, oui alors c'est la machine super pour l'IA, en gros ça veut dire quoi? Je vous traduis, c'est un ordi qui a une connexion Wi-Fi.
Oui, rapide.
Voilà. Et ça j'ai trouvé ça très drôle. Donc voilà, en fait ce qui se passe et pourquoi il a fait ça aussi ce journaliste-là, c'est que se prépare, on en avait parlé et Elite avait eu la bonne réflexion sur le sujet des nouveaux processeurs Qualcomm Elite et il y a eu maintenant Elite Plus, etc., qui pour l'instant ne sont pas sur des machines de production, mais qui ont l'air de montrer des performances très très proches, voire supérieures au M3 tout court. On ne parle pas des M3 Pro, etc. On parle d'entrée de gamme. En tout cas, des processeurs à base ARM pour le monde PC, avec des performances formidables. En termes de consommation électrique, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Mais bref, vous pouvez aller voir sur Thurott.com, donc Thurott.com, c'est son site qui a son nom, et pour trouver c'est en anglais hein, naturellement, mais avec l'IA, vous pouvez faire de la traduction facile. Et je trouve que le point de vue d'un utilisateur de Windows pur et dur sur un Mac, il a toujours utilisé des Macs depuis des années, mais là, il a fait vraiment un test en profondeur, je trouve ça vraiment intéressant. Allez, on va lâcher les chiens. Gilles, prépare-toi, prends une grosse bouffée d'air frais. Tu vas nous parler de la dernière décision de l'Europe pour désigner iPadOS comme tu le dis toi-même dans notre document qu'on partage, gardien de la porte. Donc la Commission européenne, en gros, indique à Apple que non seulement il faut ouvrir l'iPhone aux applications tierces et aux magasins d'applications tierces, mais il va falloir le faire aussi pour l'iPad. Alors, raconte-nous, Gilles, à quel point tu es énervé.
Oui, la commissaire en charge au marché intérieur expliquait notamment qu'il fallait absolument ouvrir iOS parce que les téléphones étaient dans toutes les poches et maintenant sur l'iPad, il faut en faire de même. Je ne sais pas si c'est dans toutes les serviettes ou quoi. C'est me semble honnêtement, il n'y a pas de, je ne vois pas d'arguments rationnels. L'iPad est à peu près à 50, un peu moins de 50% de part de marché. Ça a dû baisser maintenant, mais surtout les ventes diminuent de trimestre en trimestre. Je ne vois pas pourquoi c'est absolument nécessaire d'ouvrir, si ce n'est pour des raisons idéologique. Et la réflexion qui m'est venue, c'est que on est en fin de mandature pour la commission. Les élections sont dans moins d'un mois maintenant et à la fin de l'année, d'ici un peu plus de 6 mois, la commission va être renouvelée en fonction des propositions des différentes chancelleries et puis validée ou pas par la nouvelle assemblée. Donc pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de l'affichage, en fait. D'idéologique, on montre qu'on a fait quelque chose et qu'on fait des choses jusqu'au bout, même si c'est parfaitement contre-productif et si ça va à l'encontre de l'intérêt des simples citoyens et des vrais gens, comme tu dis si bien,
Élie, tu
Fabrice.
voulais ajouter quelque chose?
Oui, en fait, l'iPad a une utilisation un peu différente de celle d'un téléphone. Et un des intérêts et ce qui fait qu'il s'en vend quand même un certain nombre, c'est que, étant donné qu'il est très sécurisé, iPadOS étant un peu comme macOS, il a été autorisé à être employé dans certaines armées, comme l'armée américaine, ou voire dans certains avions, parce que l'iPad constitue une aide importante pour un pilote à l'intérieur d'un avion. Et à partir du moment où on commence à ouvrir des portes un peu partout, les App Store alternatifs, les applications qui viennent de n'importe où, etc., je crains que l'utilisation des produits comme ça, comme un iPad, soit justement bloquée dans certains métiers où il avait eu son entrée. Et où il est irremplaçable. Donc, c'est vraiment dommage que pour des idéologies, moi, dernièrement, la Commission européenne m'énerve un tout petit peu. À chaque fois que je vois un truc de chez eux, je me dis, mais ça y est, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir? Et franchement, ils n'ont pas d'autre chose plus intéressante à faire que de venir embêter tout le monde. Enfin, bon, bref, c'était mon coup de gueule de la semaine, désolé,
Je
mais.
vais, ça ne va pas vous étonner, mettre un petit bémol à ça pour deux petites choses. C'est intéressant ce que tu dis sur Gilles aussi, hein, sur l'utilisation de l'iPad et notamment en environnement sécurisé. Quand on utilise une machine, soit un iPad, un iPhone ou un Mac, dans un environnement comme ça, on utilise des machines gérées par l'administrateur et du coup, on peut accorder ou non des droits, et notamment des droits d'installation d'applications, même si qu'elles viennent d'un App Store alternatif ou de l'App Store d'Apple, de toute façon. Donc, je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Si on est dans un environnement vraiment sécurisé et militaire, à ce moment-là, ce sont des machines qui sont gérées par le service informatique. Donc, de toute façon, ils ne pourront pas installer ça. L'autre truc, c'est que les magasins alternatifs, il y a un côté pratique, je trouve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où donc, la règle est passée et l'iPhone, on en a parlé, hein, j'ai même moi-même installé l'Alt Store, j'ai raconté ça dans l'épisode précédent, sur mon iPhone pour voir comment c'était. Mais on se retrouve dans ces cas-là, dans une drôle de situation où on peut avoir des applications qui sont disponibles sur l'iPhone et pas sur l'iPad, alors qu'il pourrait y avoir des versions iPad. Par exemple, pour l'instant, donc les applications alternatives, elles sont très peu nombreuses, on le sait, hein, mais sur l'Alt Store, aujourd'hui, il y a notamment un émulateur de jeux Nintendo qui s'appelle Delta, et son développeur a annoncé une version iPad, mais qui du coup ne serait pas disponible en Europe si le magasin alternatif qu'il propose n'était pas disponible sur l'iPad non plus. Donc, ça aurait pour moi du sens quand même d'avoir aussi l'accès au magasin alternatif sur l'iPad. Et visiblement, pour que ce soit le cas, il faut obliger Apple à le faire. Voilà. Donc, à partir du moment où on commence à un bout, je trouve normal que ce soit aussi sur l'autre bout. Ça, c'est le côté peut-être plus pratique, voilà, de la chose.
Une petite remarque sur AltStore, parce que moi je l'avais installé il y a longtemps avant que ça devienne une App Store officielle. Là, il se donne un tout petit peu une nouvelle vertu, puisqu'il respecte les critères Apple, parce qu'AltStore permettait d'installer des applications qu'on ne trouvait qu'en jailbreak, sans jailbreaker le téléphone. Et dans la liste qu'il proposait à l'époque, c'était des applications qu'Apple n'aurait jamais voulu voir sur un téléphone. Donc, et moi je l'avais installé à cause de ça, parce qu'au début, jailbreaker les téléphones, ça m'amusait, mais c'est devenu plus compliqué. Et pour installer des applis vraiment dont j'avais besoin ou dont j'avais envie d'utiliser, j'utilisais AltStore et voilà quoi. Donc, c'est amusant que maintenant ils soient revenus par la grande porte de façon officielle. Ils ont enlevé ces applications-là de leur catalogue, en tout cas pour le moment.
Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Allez, on va passer à nos coups de cœur ou cartons de la semaine ou quoi que ce soit. Qui a quelque chose à raconter? Élie, un
Oui,
petit quelque chose? Vas-y, shoot.
rapidement parce que j'ai démarré, mais j'ai démarré Franklin sur Apple TV Plus.
Ouais,
Très, très bien fait.
c'est
Bon,
très
au
très
départ, je
bien.
l'avais démarré pour Michael Douglas, que je voulais
Moi,
voir dans ce
j'adore.
rôle-là, mais je trouvais ça vraiment très bien fait. Il paraît qu'ils ont pris quelques libertés historiques, mais bon, après tout, c'est une série, hein, donc il faut bien qu'ils aient des choses à raconter. Mais en tout cas, c'est super bien fait, mais j'en suis au tout début.
Ils ont un peu mélangé avec John Adams, qu'ils n'ont pas raté. Il en prend pour son grade. C'est très, très drôle. Dépêchez-vous si vous n'avez pas commencé.
Oui, c'est vrai. Je vais me permettre de rajouter un petit truc. On
Sure.
voit aussi forcément le personnage de Beaumarchais. Et je vous conseille le film qui s'appelle Beaumarchais, un film de 1996 réalisé par Édouard Molinaro. Et Beaumarchais est joué par Fabrice Luchini. Et moi, je trouve que c'est un grand, grand film aussi sur l'épopée de Beaumarchais, que ce soit théâtral ou donc dans les affaires et dans son implication dans la recherche de la liberté des États-Unis. Voilà, donc Beaumarchais 1996, si vous avez ça, vous trouvez ça. C'est un bon complément, je trouve, à Franklin. Gilles, tu as un coup de cœur, un carton, quelque chose cette semaine?
Visionné l'épisode suivant de Franklin avec gourmandise, si ce n'est goinfrerie, et je trouve toujours aussi bon, toujours aussi enthousiasmant. Et on voit, historiquement, c'est très très bien fait pour la dynamique entre la France, l'Angleterre et les futurs États-Unis, mais il y a effectivement des libertés qui sont prises avec la biographie de Benjamin Franklin et qui c'est un petit peu gênant quoi. C'est John Adams en prend pour son grade, mais les Français aussi en prennent aussi sur la superficialité de ce qui peut se passer à la cour.
C'est très vrai. Pour ma part, je voulais vous raconter rapidement mon quart d'heure avec le Vision Pro. Donc, j'ai parlé de notre camarade Florent Morin tout à l'heure. En fait, j'ai eu la joie de le voir. Il venait à Toulouse, là où j'habite, pour faire une petite conférence autour du Vision Pro, justement. Et donc, je suis allé le voir et l'écouter. Et puis, à la fin, il a eu la gentillesse de faire essayer son Vision Pro à quelques-uns qui étaient là, et donc à moi. Et donc, pour la première fois, j'ai chaussé un Vision Pro. Et alors, j'ai mis ça dans la rubrique coup de cœur ou carton. En fait, c'est entre les deux, parce que pour l'instant, pour moi, c'est un peu meh, bof. Mais il faut comprendre d'où je pars. C'est-à-dire que, notamment, pour vous raconter ma petite vie personnelle, je n'ai qu'un seul œil qui marche. Donc, dans la vraie vie, je ne vois pas en 3D non plus. Donc, ça veut dire que tous les effets de profondeur dans le Vision Pro, pour moi, je ne les vois pas. Donc, je ne peux pas être abasourdi par un effet 3D que je ne vois jamais. Donc, ça, ce n'est pas un critère pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. En tout cas, c'est intéressant de savoir, je crois, pour des gens qui sont dans mon cas, qui n'ont qu'un œil qui fonctionne, qu'en revanche, là où j'ai été très, très agréablement surpris, c'est que le Vision Pro n'a pas branché. C'est-à-dire qu'il me l'a mis en mode invité. Et du coup, j'ai fait la petite session pour le mettre en route, là où il faut regarder ses mains. Et puis ensuite, il faut viser des points à l'écran en les regardant. Et puis ensuite, en faisant un petit geste de pincement pour les sélectionner, faire le calibrage. Et jamais le Vision Pro m'a demandé quoi que ce soit, me demandant il n'y a qu'un seul qui marche ou ceci, cela. Ça a marché tout de suite. Voilà. Je pense que ça, c'est encore un exemple de ce que Apple sait faire en fonction d'accessibilité. Et c'est très fort. Voilà. Donc ça a marché tout de suite pour moi. J'ai pu essayer un petit peu donc les applications, les trucs immersifs. Alors l'immersion, je la ressens forcément aussi, hein, puisque ça prend tout le point de vue, tout le visuel, tout l'angle de vue. Et en parlant d'angle de vue, ma petite déception, c'est que j'ai trouvé qu'on voyait quand même beaucoup en fait les bords de l'écran, c'est-à-dire que l'écran n'est pas contre l'œil, et heureusement, mais du coup le champ visuel n'est pas entièrement rempli, même pour moi. Donc. Et ça fait une petite déception pour moi, parce que du coup, des fois, on bouge l'œil vers le bord de l'écran qui se trouve à l'intérieur du masque. Et j'ai trouvé qu'on voyait un peu des reflets irisés, quoi. C'est-à-dire qu'on voit des couleurs, des reflets multicouleurs, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, là, sur les bords de l'écran. Et ça m'a cassé, par exemple, l'immersion. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin, parce que c'est pas du tout un test forcément en un quart d'heure. Je remercie encore Florent de m'avoir laissé essayer son Vision Pro. Mais voilà, j'ai pas eu d'effet waouh, moi. C'est ça que je voulais dire. Et en revanche, sauf sur un truc, c'est que donc même avec un handicap comme le mien, ça marche très bien. Et donc c'est intéressant à savoir. Voilà ce que je voulais dire sur le Vision Pro. Voilà, c'est la fin de cet épisode de 184 d'iWeek, la semaine Apple. Alors, si vous aimez notre podcast, et comment ne pas l'aimer, allons, allons, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et on compte bien sûr sur vos notes 5 étoiles et sur vos avis sur Apple Podcast et ailleurs. Et puis, bien sûr, pour ceux qui veulent nous soutenir sur patreon.com/iWeek et rejoindre la communauté. Voilà, merci les amis, merci Gilles.
Merci Fabrice de ton accueil. À bientôt.
Je l'ai fait de mon mieux, merci Élie.
J'étais ravi de participer à cette émission. À la prochaine.
À la prochaine, moi aussi. Alors suivez-nous aussi sur les réseaux, sur Threads, Blue Sky. On est aussi sur X, Twitter, Mastodon. Un hashtag iWeekLSA. Dans un instant, si vous êtes parmi nos soutiens, ne bougez pas. On prolonge l'épisode juste après le générique avec le bonus consacré cette semaine à une question très importante. Quel impact potentiel de l'adoption de l'IA par Apple sur sa promesse d'être une entreprise neutre en carbone en 2030? On va essayer de discuter un peu de ça juste après le générique. Voilà, merci à tous. Bye bye.
Salut.
Bye bye.